La bilharziose intestinale est une parasitose des régions tropicales. Ainsi, dans les îles de la chaîne Caraïbe, les problèmes posés par cette endémie sont graves. En Guadeloupe, 10 à 15% de la population est parasitée. L'Institut Pasteur de Pointe-à-Pitre s'est intéressé spécialement à ce parasite et à l'étude de son cycle évolutif. En pays tropical, les contacts de l'homme avec l'eau sont fréquents et bien souvent inévitables. Cet homme, pieds nus, allant à son travail par ce chemin inondé, cette femme, puisant son eau dans une mare, ses enfants, tout heureux de s'ébattre dans un bassin d'eau douce et fraîche du faubourg, ce bambin dont on fait la toilette, ses lavandières, toutes et tous risquent de s'être contaminés. La ville elle-même constitue un des principaux foyers d'infestation. Quel que soit l'âge ou l'activité des habitants de ce quartier, les contacts dangereux sont multiples et, trop souvent, obligatoires. Contacts dangereux, en effet, à la campagne, dans le marais, sur ces mangues, comme à la ville, dans ses eaux croupissantes, vit un mollusque d'eau douce, un planorbe, qui libère une larve infestante. Cette larve, pénétrant et évoluant chez l'homme mis à son contact, déclenche une parasitose, la bilharziose intestinale. Dans ce film, nous suivrons le cycle évolutif du parasite. En voici le schéma. La femelle pond ses œufs dans les veines mésentériques de l'homme. Ses œufs perforent vaisseaux et tissus, tombent dans la lumière intestinale. Ils sont éliminés par les selles dans les eaux d'écoulement. Un embryon sortira alors de cet œuf, le myracidium. Il devra se fixer sur un escargot d'eau douce, un planorbe, qui est l'hôte intermédiaire. Il sortira de cet hôte, transformé et multiplié. Cette nouvelle forme, le furcocercaire, libre dans l'eau, est la forme infestante de l'homme. Le furcocercaire pénètre activement à travers les tissus cutanés, migre vers le système porte et se transforme en vers adultes, mâles et femelles, après quelques semaines. L'homme est donc l'hôte définitif. À nouveau, des œufs seront éliminés par les selles de l'individu parasité. Leur recherche, délicate, doit être souvent renouvelée dans les cas suspects. Leur découverte pose un diagnostic évident. Voici un groupe d'œufs isolés des selles d'un malade. Leur forme est spécifique, ovoïde, en ballon de rugby, avec un éperon latéral effilé. Leur taille est en moyenne de 120 à 150 mu. Un de ces petits rectangles représente 200 mu dans la longueur, soit 2 dixièmes de millimètre. La transparence de la coque permet d'observer à l'intérieur un embryon déjà bien développé à l'émission des selles. Il est ici entouré de massifs nutritifs disposés en deux couronnes réfringentes. La dissémination dans les eaux douces et ensoleillées entraîne le gonflement des œufs et la maturation des embryons, dont les mouvements sont divers. Contraction lente, puis brutale, balancement, élongation. Ces mouvements deviennent plus fréquents, plus vifs. La maturation est complète. Brusquement, l'ensemble des cils de l'embryon entre en mouvement. Il va éclore. Voici l'enregistrement de cette éclosion en vitesse normale. L'enregistrement ralenti trois fois met en évidence la rapidité du phénomène. Le mouvement des cils crée un courant intense dans l'œuf. L'embryon tassé sur lui-même bouge relativement peu. La déchirure de la coquille est brutale. Moins du centième de seconde, l'embryon est projeté, expulsé à l'extérieur. Ici, au moment de l'éclatement, il est engagé par son extrémité postérieure. Mais il se dégage progressivement. La coquille est ensuite abandonnée avec les résidus nutritifs. Libres, ces embryons, ces myracidiums, évoluent avec aisance et rapidité dans les eaux douces. Leur phototropisme est très positif. Le myracidium est un micro-organisme cilié à sexe défini non différencié. Sa taille est voisine de celle de l'œuf dont il est issu, 120 mu environ. Son aspect le plus habituel évoque la semelle d'un soulier. Mais notons aussi sa grande plasticité. La microscopie en contraste de phase et au ralenti met en évidence sa structure simple. À la partie antérieure, remarquons un petit rostre en arrière duquel se dessine un tube digestif primitif. Deux masses glandulaires plus sombres, disposées de part et d'autre de ce tube, convergent vers son extrémité antérieure. Un massif cellulaire sphérique, de rôle digestif ou glandulaire, occupe le centre de l'embryon. La partie postérieure est sillonnée par un appareil excréteur bien différencié. La périphérie, sauf le rostre, est couverte de cils longs et épais, véritables rames microscopiques. Pour les observer, il est nécessaire de ralentir leur mouvement grâce à de l'alginate de sodium. La vie libre du myracidium est de courte durée, quelques heures. Il est condamné à mourir ou à se transformer après fixation sur un mollusque particulier, un planorbe. En Guadeloupe, l'hôte intermédiaire, Australorbis glabratus, est très répandu. La première partie du cycle est alors réalisée. Le myracidium pénètre en un point quelconque des organes externes du mollusque. 4 à 5 jours après, au voisinage du point de pénétration, apparaît une grosseur, un kyste, sur cette tentacule, par exemple. Ce kyste renferme le myracidium qui, évoluant, s'accroît dans toutes ses dimensions et se transforme en un sac distendu, le sporosiste primaire. De plus, ce kyste témoigne d'une réaction de défense, plus ou moins vive, de l'hôte vis-à-vis du parasite. Le sporosiste primaire atteint sa maturité en une vingtaine de jours. On peut rencontrer à ce stade d'énormes kystes envahissant toute la tentacule et inhibant le planorbe. L'ouverture de l'un de ces kystes au 15e jour le montre garni d'éléments de tout genre et de toute taille, de la plus simple en bille jusqu'à la forme mature en boudin. Ce sont les sporosistes secondaires, élaborés par multiplication et agencement interne des sporosistes primaires. Expression d'une importante simplification parasitaire, la structure de cet élément est sommaire. C'est un ensemble de cellules rondes, régulières, plus ou moins groupées, contenues dans une enveloppe lâche, contractile, striée. L'extrémité antérieure est particulièrement mobile. À la rétraction, elle s'invagine, formant une ventouse rudimentaire. Morphologiquement différent du myracidium dont il dérive, ces sporosistes ont cependant un rôle similaire, transport et dissémination d'éléments encore embryonnaires dans l'hôte lui-même. Ils vont en effet migrer vers les organes internes de l'hôte, s'y fixer et évoluer individuellement. Il faudra donc séparer totalement le planorme de sa coquille pour retrouver le parasite. À la loupe, ils se présentent comme des masses, des boudins nacrés, inertes, tranchant en relief sur différents organes comme la glande albubine et l'estomac au voisinage du cœur. L'hépatopancréas reste l'organe de prédilection. Le parasite s'y insinue parfois très profondément. La glande sexuelle elle-même, à l'extrémité postérieure du mollusque, en est rarement dépourvue. En ouvrant le poumon, on le trouve encore sur toute la longueur du gros intestin. Il se fixe là souvent en grande abondance dans un repli de la cavité générale. Que sont maintenant ces sporosistes secondaires? Quelques jours après leur fixation, l'enveloppe s'hypertrophie anarchiquement. Ses mouvements propres ont entièrement disparu. Des massifs embryonnaires se développent. L'inertie de ces deux sporosistes non fixés est totale. Ces massifs, en une quinzaine de jours, sont complètement évolués et, point important, différenciés. Cette forme nouvelle, potentialisée dans le myracidium, embryonnaire dans les sporosistes qui en dérivent, multiplié et disséminé au cours de tout son cycle, c'est le furcocercaire, forme larvaire infestante de l'homme. Doué des attributs nécessaires à une vie libre, le furcocercaire se dégage de la membrane qu'il perfore. Puis, traversant activement les tissus de l'hôte, ils s'échappent vers l'extérieur. Ils sortent ici du mollusque par paquets de petits traits blancs vrillant avec aisance dans l'eau. Une source lumineuse et chaude, la lumière solaire par exemple, active cette sortie. Cette forme larvaire, longue d'un demi millimètre environ, est constituée de deux parties. Une tête munie de deux ventouses, une queue plus longue que la tête, bifurquée dans son extrémité postérieure. L'union, tel un bouton pression, est précaire. L'appareil excréteur, visible dans la partie céphalique, est commun aux deux éléments. Grâce à une forte musculature caudale, la larve effectue des vibrations extrêmement rapides entre deux points, ce qui lui permet de se déplacer sans support. Ralenti trois fois, ce mouvement vibratoire est encore très rapide. La partie céphalique est complexe. Deux ventouses permettent à la larve des déplacements sur un support quelconque. Mais la ventouse orale reste l'organe essentiel du parasite. Un tube digestif rudimentaire y débouche. Un ensemble important de glandes salivaires y déverse des sécrétions lisantes. Enfin, tels de véritables crocs, une couronne de flammes vibratiles permet au parasite de se fixer. La deuxième phase du cycle, élaboration de la larve infestante, est terminée. Mise à leur contact, elle pénètre dans les téguments de l'homme. Dès lors, son évolution ne peut être suivie qu'expérimentalement. Sur les animaux de laboratoire, cette évolution est similaire. Voici deux phases de la pénétration dans l'oreille d'une souris. Après avoir rampé sur la peau, la partie céphalique perfore le tissu, pénètre profondément dans le derme. La queue devenue inutile est abandonnée à l'extérieur et ne tardera pas à dégénérer. Trois semaines après infestation massive, la souris présente des troubles hépatiques intenses. Une vésicule énorme, des zones blanchâtres disséminées sur tout le foie, signe de réaction fibreuse sténosante. Les parasites ne sont pas encore visibles. Par perfusion, on les dégagera du système porte intrahépatique. Dans ce produit d'une infestation unique, de nombreux stades d'évolution se rencontrent. Les organes élémentaires du furco-cercaire ont subi des transformations plus ou moins poussées. La plus réduite de ces formes rappelle la larve, mais le tube digestif est devenu très apparent. Sa bifurcation devient plus nette en même temps que la taille s'accroît. Elle enserre la ventouse ventrale. Par la suite, les deux cécum fusionnent au tiers postérieur et ne forment qu'un tube épais, irrégulier, sans anus, rempli de déchets pigmentés. Les ventouses préexistantes chez la larve demeurent. La ventouse orale, triangulaire, profonde, permet aux parasites d'adhérer aux parois sanguines et de se déplacer. Vers plat, l'accroissement de taille est surtout sensible en longueur, suivant un gradient antéro-postérieur. Notons enfin l'absence apparente de différenciation sexuelle. Un mois encore, soit environ deux mois après l'infestation, et l'on obtient la forme définitive, l'adulte. À la dissection, on note un foie hypertrophié, des zones intestinales gorgées de sang, preuve d'une ponte très active à ce niveau. Dans le tronc porte extra-hépatique, voici les adultes accouplés. On rencontre également des adultes, des femelles en particulier, dans les veines mésentériques. C'est principalement à ce niveau qu'a lieu la ponte dans le cas de la bilharziose intestinale. L'ouverture de la veine porte permet d'isoler des couples. La taille des mâles est voisine du centimètre, notée ici par un trait au diamant. Les femelles se distinguent difficilement. En effet, plus longues mais beaucoup plus minces que le mâle, elles se logent presque totalement dans le canal gynécophore, que forme celui-ci par repli de ses bords latéraux. La fécondation s'effectue par accolement des orifices génitaux. Le dimorphisme sexuel est maintenant très net. Son apparition est tardive, car le sexe génétiquement déterminé dans l'œuf ne s'exprime qu'au dernier mois de maturation. Tous les adultes issus d'un même miracidium ont le même sexe. L'organisation morphologique des deux sexes est similaire. Les deux ventouses sont volumineuses, surtout chez le mâle. Le tube digestif, formé de deux cécum minces dès la ventouse ventrale, est simple, sans anus dans sa partie terminale. L'œsophage, avec sa couronne musculaire, est rempli d'ématies. Elle donne, au niveau de la bifurcation, un pigment rouille que de brusques contractions brassent ou promènent d'une extrémité à l'autre du tube. La zone délimitée par les deux segments digestifs contient les organes génitaux. Le mâle possède 8 lobes testiculaires en chaîne, représentés ici par une traînée blanchâtre à la suite de la ventouse ventrale. Les organes génitaux de la femelle sont très développés. Ils se disposent sur toute la longueur du ver. Depuis l'extrémité postérieure, avec son orifice excréteur, nous remarquons successivement les glandes vitellogènes autour du tube digestif, large et spiralé, les deux vitelloducts, l'ovaire au tiers moyen en forme de poire, l'oviduct et l'ovotype avec un œuf déjà bien formé. La femelle ne pond qu'un œuf à la fois, ce qui différencie cette espèce des autres schistosomes. Cet œuf sera libéré dans le système sanguin mésentérique. Les ondulations à contre-courant des mâles, les contractions viscérales, vont accumuler les œufs dans les capillaires qu'ils perforent. Les tissus peuvent réagir, former un kyste, comme on le voit ici, en serrant deux œufs. Mais un certain nombre traversera la paroi intestinale. Et le cycle reprend. Les conditions naturelles de sa réalisation sont sévères. Mais la permanente fécondité des adultes, comme la double et importante prolifération chez l'hôte intermédiaire, contribue au maintien de l'espèce en dominant le hasard qui préside à sa dissémination.